Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons 45 minutes pour vous montrer que la France se bouge, se mobilise et ne s'arrête jamais, même pendant l'été. Gros plan aujourd'hui sur la climatisation. Attention, hein, pas la clim que l'on connaît, non. La clim naturelle. Vous allez voir que là aussi, il y a des solutions. Quelles sont les alternatives à la climatisation classique? C'est le dossier du jour. Évidemment, ce sera après le pitch et la solution de la France Bouge.
Europe 1.
À mes côtés pendant toute l'émission, Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth.
Et notre coach de la semaine, Catherine Testa. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Présidente du club des Chief Happiness Officers. Bonjour Catherine. Alors pas simple hein, de se lancer pendant la crise. Et pourtant, vous l'avez fait. Hein. André Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes le cofondateur d'une micro-yaourterie, c'est-à-dire que vous avez vous directement dans les fermes de producteurs de lait, vous vous êtes installé et donc vous avez décidé de créer cette micro-yaourterie, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. On a créé une yaourterie, c'est-à-dire un endroit où on fabrique des yaourts, parce qu'on a l'habitude de parler des fromageries. Et donc, il a fallu inventer un mot. Donc, on a inventé le mot de la yaourterie.
C'est ça.
C'est l'endroit où on fabrique des yaourts.
Eh bien, la yaourterie, vous allez nous en parler. Quel est votre concept? C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Alors, né d'une seule ferme, c'est créé pour répondre à une double demande. D'abord, une demande du consommateur, qui est vers des produits sains, naturels, locaux. Et une demande des producteurs, qui ne voulaient pas passer à côté de la production de cette demande du consommateur. Quand vous êtes producteur de lait, ben c'est pas très compliqué de faire du lait, il faut savoir faire, c'est un métier. Par contre, faire des yaourts, c'est un autre métier. Et puis si vous voulez les vendre, il faut apprendre un nouveau métier, celui de vendre. Et puis il faut apprendre le métier de marketing, il faut apprendre plein de métiers. Et né d'une seule ferme, et a été créé pour être le pont entre tout ça et faciliter les choses. Donc chez né d'une seule ferme, on s'occupe de la commercialisation du yaourt d'un côté et on s'occupe de la conception de la yaourterie. Donc on a conçu une yaourterie qu'on met en location chez le producteur. Donc ça veut dire qu'on s'est aussi occupé du financement de la yaourterie. Donc on loue au producteur une yaourterie, il branche ça sur son tank à lait, on lui apprend à faire des yaourts, il fait des yaourts. Nous on prend les yaourts à la sortie de sa chambre froide et on les amène dans les magasins. Depuis le 1er juillet, nos yaourts sont en vente dans 120 points de vente Intermarché de la région de Dijon et de Lyon. Donc on est très contents.
C'est terminé? Ok, vous êtes allé en dessous de la minute 30, mais c'est pas grave, déjà bravo. Parce que
j'ai pas mis mon chronomètre.
Non, non, désolé. Ça va bientôt s'arrêter au bout d'une minute 30. 120 magasins depuis le 1er juillet, bravo, parce que c'est pas évident hein, de distribuer ces produits. Voilà, ça a été difficile à mettre en place?
Alors, non, on a eu la chance, dès la conception du projet, de contacter les gens de chez Intermarché comme d'autres enseignes. Et surtout, les gens d'Intermarché nous ont tout de suite dit « oui, ça nous intéresse ». Et depuis un an déjà, ils s'étaient engagés à commercialiser les produits quand on aurait démarré. Donc, c'est vrai que c'était une belle assurance pour le projet. Mmh. Il n'empêche qu'il a fallu, concevoir la yaourterie. On l'a conçue pour le Salon de l'agriculture. Donc, c'était notre premier challenge. Mmh. Il y a quelques mois. Et puis, notre deuxième challenge, c'était de mettre au point des recettes sans aucun additif, sans aucune poudre de lait, sans rien, du lait, des ferments, et c'est tout. Et ça, il fallait que ça reste un produit qui soit au goût du consommateur, c'est-à-dire goûtu, mais ça, on était assez sûr de nous en prenant du lait entier, on savait que le produit serait goûtu, mais il fallait qu'il soit ferme.
Alors, né d'une seule ferme, je me tourne vers vous, Catherine Testa. Première réaction donc du coach.
Alors, j'aime forcément, moi j'ai grandi dans une ferme laitière, c'est-à-dire que mes grands-parents, ils avaient une ferme laitière. Donc ça me...
Voilà. C'est génial, on apprend toujours des tas de choses sur nos coachs, comme ça, j'adore.
Alors moi, c'était la Normandie, mais bon. Du coup, j'aime beaucoup l'idée, j'ai plusieurs questions. La première, c'est du coup, c'est une yaourtière qui est amovible, c'est-à-dire que n'importe quel agriculteur peut implanter une yaourtière dans sa ferme, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est quoi la répartition des bénéfices, in fine ? Vous dites que c'est à coût zéro pour celui qui implante ça chez lui. À qui ça rapporte, en fait ?
Alors, la pour répondre à la première question, c'est un conteneur maritime, c'est-à-dire que c'est vraiment un conteneur de 6 mètres par 2 mètres 50, c'est-à-dire qu'on le pose sur un camion et on vient avec une grue le poser dans la ferme, vraiment à côté du tank à lait, c'est vraiment très très simple. Alors, elle n'est pas sur roue,
on
va pas la déplacer jour après jour, il y a un chien là.
Il va y avoir peut-être.
Ça doit être ça. Et une fois qu'on a, on implante la yaourterie, ça veut dire qu'on peut l'emmener chez un autre producteur. Si le producteur chez qui on l'a mis a changé de projet, on peut la prendre et l'emmener chez un autre producteur. Donc, c'est très mobile. Et puis, du coup, j'ai mangé votre deuxième question.
Alors, ah oui, c'est la répartition de la valeur. Alors, des bénéfices, ouais. Du coup, à qui ça rapporte,
voilà. Est-ce que... Alors ça, moi, j'ai un passé de syndicaliste agricole et donc c'était ma première motivation, c'était de faire en sorte qu'on soit capable de produire du lait qui permette une bonne rémunération du producteur. Donc ça, c'est là. On est parti de là, c'est-à-dire qu'on est parti dans le bon sens. On a dit, voilà, aujourd'hui, un producteur de lait, il vend à peu près son lait à 35 centimes. Il faut qu'au moins le producteur couvre ses rémunérations, couvre la main-d'œuvre.
Une rémunération équitable.
Voilà, et c'est vraiment, c'est le prix qu'on a retenu, c'est 55 centimes par litre de lait. Au final, une fois qu'il a tout payé, ça doit lui payer son lait à ce prix-là, en ayant payé la main-d'œuvre. Donc, on crée de l'emploi sur les territoires, on ramène plus de valeur aux producteurs, ça c'est la condition de base, et on a essayé de construire un modèle économique qui permette que le consommateur, que ce soit accessible au consommateur avec un produit qui est à moins de 2 euros les 4 yaourts.
Comment peut-on vous aider dans votre yaourterie, André Bonnard?
Ah ben alors là, très clairement, moi, j'ai beaucoup de producteurs qui m'ont demandé à avoir la yaourterie. Donc, de ce côté-là, c'est bon. J'ai réglé le problème. Et mon deuxième problème, c'est que vous avez compris, on finance les yaourteries. Donc, aujourd'hui, on recherche des investisseurs à nos côtés pour pouvoir lever de la dette.
Catherine, est-ce que vous allez du coup vendre, vous évoquiez tout à l'heure Intermarché, est-ce que vous avez d'autres pistes en fait? Nous, en tant que consommateurs, donc
pour
j'ai bien compris, on peut acheter des yaourts nés d'une seule ferme. Est-ce que vous avez d'autres canaux de distribution ou pas encore?
Alors, pour l'instant, on se contente de là parce que globalement, ils consomment plus qu'on ne grandit, plus vite qu'on grandit. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher une autre débouchée si on n'a pas réussi à vendre plus. Mais effectivement, il y a deux solutions. La première solution, effectivement, d'aller vers d'autres réseaux de distribution plus locaux. Ça, Intermarché nous autorise sans problème à aller vers ces réseaux-là. Et puis, on a donné la possibilité aux producteurs de démarcher localement. Leur cantine scolaire, les EHPAD du coin.
C'est une bonne
idée, ça.
Pour
vendre les yaourts qu'ils fabriquent dans leur
maison.
Il n'y a pas d'exclusivité pour le producteur.
Eh bien, très bien. Pas d'exclusivité pour les producteurs. Ça s'appelle Né d'une seule ferme. Merci, André Bonnard. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles. Nous, on aime bien ça à La France Bouge.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Europe 1.
Consommer une mode responsable, éthique, qui ne dépend pas des fabricants asiatiques. C'est ce que propose Thelma Rose. Et c'est la solution de Dora Nana.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Comment sortir de l'hyperconsommation dans le textile et évoluer, pourquoi pas, vers une garde-robe minimaliste? Dora, vous avez une solution et elle s'appelle Thelma Rose.
Thelma Rose, c'est tellement joli. C'est une boutique en ligne, une marque, les filles, qui nous aide à faire évoluer notre garde-robe. Parce qu'on est nombreuses aujourd'hui à vouloir consommer différemment. On a regardé nos dressings ces derniers mois et on s'est dit qu'on avait envie de donner du sens à ce qu'on achète et qu'il y en avait beaucoup trop dans notre armoire.
Ça déborde.
Voilà, ça déborde. Donc on s'est dit pourquoi pas acheter un peu moins, peut-être un peu mieux aussi, et acheter des marques qui prônent et respectent certaines valeurs, justement éthiques, environnementales, et pas fabriquées à l'autre bout de la terre. Donc, et puis fini aussi ces petits coups de cœur qui finissent au fond de nos plaques. Car la petite robe qui aurait été portée une fois de temps en temps, l'histoire d'une soirée, et cette robe par exemple, chez Thelma Rose, elle peut être conçue pour être portée en recto verso.
C'est
une
génial,
robe 2 en 1, donc forcément on s'en lasse moins, on est bien d'accord. Bonjour Sidonie Dumoulin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de la marque, donc Thelma Rose, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors je viens de le raconter, on a tous vécu un peu ça ces derniers mois, là, cette envie de changement. Est-ce que vous le constatez aussi auprès de votre cliente? Est-ce que vos clientes, elles ont envie de changer de manière consommée? Elles viennent vers vous pour ça? Il y a des nouveautés, des nouvelles clientes qui arrivent vers vous?
Oui, exactement. En fait, notre cliente, elle a clairement envie de consommer moins, consommer mieux. Elle est très attentive à la manière dont elle consomme. Elle est très regardante sur les étiquettes. Et puis, effectivement, avec la crise du Covid, elles sont nombreuses aussi à avoir pris du recul sur leur consommation. Et c'est vrai qu'au sortir de ce confinement, on constate l'arrivée de nouvelles clientes, en fait, qui ont vidé leur dressing et qui ont envie de passer à autre chose.
Et du coup, vous avez quoi comme vêtements? Racontez-nous, c'est quoi les vêtements? Vous m'avez dit, j'ai des vêtements multitâches. Ça veut dire quoi, des vêtements? Ils sont passe-partout? On peut s'en servir?
Ils sont passe-partout, oui. En fait, nous, on propose un dressing minimaliste. Ça veut dire qu'on propose un vêtement, en fait, qui affiche des lignes simples avec un style casual chic. La plus-value, en fait, de Thelma Rose, c'est d'avoir des coupes précises, des lignes précises et également une matière haut de gamme qui propose un toucher extrêmement doux et qui est extrêmement agréable à porter.
Par exemple, c'est quoi votre produit phare qui va nous faire rêver là? Nous sommes aujourd'hui que des femmes dans le studio, donc c'est parti. C'est parti, on vous écoute.
Alors, on a une robe longue, notamment, qui s'appelle la robe Yann, qui fonctionne très, très bien. Et on a une jupe longue également, alors surtout le long chez nous, qui plaît, mais également des tops, qui plaisent énormément. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir porter ces vêtements en toute occasion, en fait, que ce soit en week-end, au boulot, chez soi, à la ville, etc.
C'est des intemporels en réalité. Vous avez une collection à l'année, là où les autres font des collections printemps, été, etc. Finalement, vous avez quasiment les mêmes basiques. C'est-à-dire que c'est les basiques, ceux qu'on retrouve toujours, qu'on n'aura pas acheté dans notre garde-robe.
Mmh. Et qu'on peut encore mettre.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez trouver chez nous une collection avec des manches longues, des manches courtes, par exemple, qui vont être proposées à l'année. On se recentre, nous, sur effectivement les basiques parce que, en fait, on les porte tout le temps.
C'est ce qui revient d'année en année. Pendant l'été ou encore à l'automne, après les vacances, là, on pourra aussi les porter. Catherine
est confortable aussi.
Notre coach, ça vous.
Ouais, alors, moi, j'ai découvert quelque chose en allant sur votre site. C'est ce qui est DNVB, marque de vêtements digital nouvelle génération. Et ça voulait dire que vous regardez tout l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'éco-conception aussi, j'imagine, à la distribution. Comment vous travaillez votre produit, in fine?
Alors, en fait, effectivement, notre modèle DNVB, c'est un modèle qui nous, on a la maîtrise totale de notre chaîne de valeur. C'est ce qui nous permet aussi d'aller chercher cette qualité et de la rendre abordable. On est en direct avec nos fournisseurs, en direct avec nos clients.
Donc, c'est sur votre site internet qu'on peut vous trouver?
Alors, c'est sur notre site internet que vous pouvez nous trouver, donc thelma-rose.com. Et également, on a des collaborations avec des boutiques.
Des multimarques? Ou des boutiques spécialisées dans la slow fashion, dans la mode éthique?
Alors là, par exemple, on est présent à l'Appartement Français.
En fait.
L'Appartement Français, qui est une boutique parisienne qui ne propose que du Made in France.
D'accord. Donc, vous avez ciblé ce créneau, vous avez ciblé cette niche, j'ai envie de dire, de la slow fashion et de la mode éthique.
Exactement.
Les prix?
Alors, les prix, en fait, vous allez retrouver notre débardeur à 55 euros. Par exemple, notre robe longue à 145 euros ou notre robe, justement, recto verso, elle est proposée à 85 euros.
Donc, ça peut paraître cher comme ça. C'est important, la notion de prix juste. C'est important d'expliquer, c'est du Made in France, c'est des produits de qualité, donc ça a un prix?
Alors, oui, parce que notre collection, elle est fabriquée en France dans sa totalité. Les matières sont sourcées en France et en Italie. Elles sont certifiées au Cotex. Ce sont des matières premium, haut de gamme. Donc, tout ça a un coût. C'est important de le savoir. À cela, on ajoute une marge raisonnable. C'est ce qu'on appelle le prix juste. Comme on n'a pas d'intermédiaire, aujourd'hui, notre débardeur qui est proposé à 55 euros, il le serait à peu près à une centaine d'euros s'il était distribué en boutique.
Oui, c'est forcément. Okay.
Bon, alors on y va, Catherine.
Et le côté intemporel surtout, combien d'entre nous se sont un jour acheté des fringues qu'on a mis trois fois parce que ça ne nous plaisait plus après? C'est vrai que vos collections, elles sont assez sobres et avec un petit accessoire, on arrive assez facilement à recréer un habit et c'est très joli.
Eh ben, c'est vachement bien, ça, surtout pour ces soirées d'été, là, on va en avoir besoin.
Soirée au bord de la mer, un petit coup
pour ceux qui ont de la chance d'être en vacances. En tout cas, ça s'appelle Thelma Rose. Il est très, très beau, le nom de votre marque. Hein. On la retient.
Ah, c'est gentil.
Ça fait un peu passer peut-être à Thelma et Louise, le film, j'en sais rien. Mais vraiment, ça nous plaît vraiment à nous toutes. Merci.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous, comment rafraîchir nos espaces sans polluer la planète, c'est le dossier du jour, à tout de suite.
Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag.
De l'air, c'est juste une question de survie.
Eh ouais, c'est une question de survie hein, de l'air. Ça va dans le studio, vous
ça
sentez
va,
bien
ça va. Il a beau faire chaud, ça va.
Bon, alors c'est l'été, les climatiseurs sont partout, dans les centres commerciaux, dans les magasins, les restaurants. Sauf que les climatiseurs, eh bien, ça peut être dangereux pour notre environnement. Alors, il existe une entreprise qui permet de diminuer la température intérieure, notamment des locaux industriels, de grands volumes, hein, de 6 jusqu'à 12 degrés. Bonjour, Kevin Véro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes gérant de l'entreprise Australair. Vous êtes situé en Isère. Qu'est-ce que vous avez inventé ? Quel est le principe pour justement faire baisser, sans utiliser la climatisation, les températures de 6 à 12 degrés ?
Alors effectivement, nous, on a développé un produit donc, qui fonctionne uniquement avec de l'eau et de l'air extérieur. Donc c'est un processus en fait qui se produit naturellement quand l'eau et l'air chaud entrent en contact. Donc de là, on vient créer une évaporation naturelle qui se produit et l'eau en fait va absorber, enfin le filtre rafraîchissant va absorber la chaleur, refroidir l'air chaud et l'intégrer à l'intérieur du bâtiment tout en évacuant l'air chaud par des ouvrants, donc par exemple des portes sectionnelles ou des extracteurs ou autre chose. Et ce qui fait qu'en fait nous on ne fait pas un recyclage, donc on rapporte de l'air neuf, frais et sain, constamment dans le bâtiment.
Donc, ce qui vous différencie d'une climatisation classique, c'est oui. qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'échange de chaleur. C'est-à-dire que vous rafraîchissez l'air de manière totalement écologique, mais sans échange de chaleur.
Alors, en fait, vous avez un échange qui se produit. Donc, c'est juste au niveau de l'eau et de l'air qui va faire, en fait, en humidifiant l'air, rafraîchir cet air-là. Mais nous, effectivement, on n'utilise aucun gaz frigorigène, par exemple, des gaz polluants pour la planète. La seule chose dont on se sert, c'est uniquement de l'eau.
Donc, en s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur et donc, c'est ce qui refroidit l'air qui est, entre guillemets, soufflé dans l'endroit où on se trouve dans le bâtiment.
Tout à fait, c'est
D'accord.
exactement ça.
Alors là, ça paraît simple hein, quand on le raconte comme ça, mais ça n'a pas été évident à mettre en place. Je crois que le fondateur avait déposé déjà le brevet européen il y a 10 ans.
Exactement. Donc ça fait 10 ans cette année, donc en 2010, où il a déposé un brevet européen donc sur un système qui combine le chaud et le froid par évaporation d'air pour éviter tout ce qui est justement ces gaz frigo et tous ces polluants qu'on peut avoir en plus sur les climatisations. L'avantage aussi là-dessus, c'est que notamment dans la conjoncture actuelle, on a des forts taux de renouvellement, ce qui fait qu'on a de l'air neuf régulièrement dans le bâtiment.
Pourquoi Australair ? Ça fait penser à l'Australie, il y a un lien ?
Eh bien, ça tombe bien. En fait, donc, le principe de base de l'adiabatique est fabriqué en Australie. Donc, puisque là-bas, en fait, ils équipent complètement leur maison et usine uniquement avec ça. Mmh. Et nous, en fait, on a réadapté cette solution pour le marché français en y intégrant aussi une version réversible qui va faire le chaud et le froid.
Que dit notre coach Catherine Testa ?
Alors, plusieurs choses. Alors, j'ai appris déjà ce que c'était qu'un refroidissement adiabatique.
Oui, alors ça, vous n'avez pas utilisé le mot. Et je vous félicite, Kevin, parce qu'on aurait tous bloqué dessus. Voilà. Alors, Catherine utilise...
Alors, j'ai découvert ce que c'était. Quelque chose d'intéressant, c'est que vous dites que plus l'air est chaud, plus il y a un fort rendement.
Exactement.
Ça,
alors, en fait, pour
c'est
faire simple, pour chauds, plus l'air est chaud, en général, alors sauf bien sûr dans les pays tropicaux, plus l'air est sec.
Ah oui.
Et donc, en fait, c'est cet écart entre l'humidité basse et nous, l'humidité qu'on va y injecter, qui va nous faire justement cet échange et donc le rafraîchissement plus performant de l'air.
Et c'est surtout incroyable parce que là, en ce moment, on se rend compte que les consommateurs font de plus en plus attention en fait, à leur acte d'achat. Mais finalement, toute l'industrie doit s'y mettre en B2B, enfin, en ce qu'on appelle dans le B2B, et vont faire attention de plus en plus à leur pratique développement durable. Donc ça, j'imagine que quand un industriel vient vous voir, il va aussi peut-être pouvoir valoriser le fait qu'il n'utilise pas des fluides réfrigériques, etc. Qui vient vous contacter aujourd'hui, par exemple ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux d'études qui viennent. On a aussi beaucoup de clients en direct. Concrètement, on a vraiment l'utilisateur final qui nous demande une solution avec ce système-là pour justement éviter de changer ses machines par d'autres groupes énergivores électriquement ou en gaz polluant.
Mais il fallait
en fait,
le connaître
nous, concrètement,
aussi.
Concrètement, sur un appareil comme ça, on consomme 10 fois moins d'électricité qu'une climatisation. Normal. Sur une installation
moins
complète.
D'électricité qu'une clim normale.
Ah, ça.
Voilà, 10 fois moins.
Tous ceux qui ont des bâtiments à rafraîchir. J'espère qu'ils nous écoutent parce qu'il y a une vraie solution avec vous. Dora, je me tourne vers vous. L'impact de la climatisation sur notre planète, pourquoi c'est urgent, impératif, indispensable de trouver des alternatives?
Bah avec la climatisation, on voit bien, hein, c'est un peu le cercle vicieux. Plus les températures augmentent, bah plus on s'en sert, plus on l'utilise. Et plus on rejette de la chaleur dans l'air de nos villes, surtout dans des villes et des zones urbaines déjà qui sont surchauffées. On estime qu'à Paris, par exemple, ces rejets contribuent à faire augmenter la température entre 0,25 et 2 degrés. Donc on ne parle pas de rien. Et les climatiseurs, donc les classiques, sont responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre, comme le disait notre invité là à l'instant, en rejetant des fluides frigorigènes. Dans l'autre mot qu'on aura appris aujourd'hui, c'est les fluides frigorigènes qui sont utilisés en fait pour produire du froid. Et donc c'est ceux-là qui aggravent le réchauffement climatique. Et l'autre problème important que vous évoquiez à l'instant aussi, Elisabeth, c'est la climatisation, c'est la surconsommation d'électricité. C'est pour faire fonctionner une clim, on surconsomme en électricité.
Et donc vous nous le disiez là tout à l'heure, Kevin Véro, c'est que en Australie, vous, votre solution, ça remplace totalement la climatisation dans les grands bâtiments.
Exactement. Donc en Australie, j'utilise quasiment que ce système-là.
Bon,
donc d'évaporation d'eau, pardon, dans l'air. Et en fait, justement, on vient pallier à tous ces problèmes. Non seulement on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment surisolé pour éviter les pertes de fraîcheur dans le bâtiment, au contraire. Et nous, en fait, la seule chose qu'on va rejeter à l'extérieur, c'est de l'air légèrement rafraîchi de l'usine qui va sortir dehors.
Qu'est-ce qu'on attend,
par l'eau.
Catherine, hein ?
Il faut que la France se bouge.
Ça tombe bien, c'est le thème de votre émission. Vous avez, la suite, c'est quoi pour Australair là ? C'est de pénétrer beaucoup de marchés. Comment vous allez vous développer encore ?
Alors nous, la suite, là, concrètement, on est en train de développer un système, toujours sur le principe de l'adiabatique avec de l'eau, mais sur de l'adiabatique qu'on appelle indirecte, c'est-à-dire là, l'échange RO ne se fait plus directement à l'intérieur du bâtiment. En fait, il va se faire au travers d'une machine et on arrive à avoir les performances, la température en sortie de machine quasiment égale à celle d'une climatisation.
C'est un gros investissement pour une entreprise d'aller vous chercher ?
Oui, pour nous, en fait, ça représente énormément de temps, énormément de tests, énormément d'essais et de le proposer chez nos clients en fonctionnement pour leur faire voir vraiment les écarts une climatisation et nos produits.
Et combien on peut... Voilà, ça dépend de la taille, j'imagine, la superficie du bâtiment, ça dépend de plein de choses.
Oui, alors après, grosso modo, hein, nous, sur une installation habituelle qu'on fait, par exemple, nous, nos appareils vont coûter en coût d'exploitation moins d'un euro par jour, eau, électricité compris, par machine.
Évidemment. Vendu comme ça, ça peut séduire énormément, énormément de chefs d'entreprise. Merci à vous, Kevin Véro. Ça s'appelle Australair et c'est donc un rafraîchisseur d'air 100% écolo.
Merci pour votre invitation.
Europe 1.
On reste ensemble. Comment faire baisser la température de la maison sans utiliser de climatisation? Eh bien, figurez-vous que la paille de riz peut être la solution. Restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Isoler sa toiture avec de la paille de riz, c'est une première mondiale. Hein, quand on sait que le riz, c'est la deuxième céréale la plus consommée au monde et elle produit des quantités de paille qui finissent en fumée, donc en dioxyde de carbone. Bonjour Laurence Trébert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de FBT Isolation. Vous êtes située à Dagneux, dans l'Ain. Alors, en quoi votre solution est-elle intéressante en période de forte chaleur ou en période de canicule ?
Mais écoutez, valoriser la paille de riz de Camargue, je le précise, en matériau d'isolation.
Camargue.
Oui, c'est de la paille de riz française. Et on a une culture qui est très remarquable dans le sud de la France. Ça nous permet en fait de valoriser un déchet de cette riziculture et de proposer une solution d'isolation thermique, évidemment pour l'hiver, pour réduire les consommations d'énergie de chauffage, mais aussi de réduire les phénomènes de surchauffe l'été, notamment les phénomènes de surchauffe sous les combles, puisque la toiture est la surface la plus exposée au soleil et dans lesquelles je pense que tout le monde a déjà vécu des phénomènes d'inconfort maximal.
Alors, pour qu'on puisse tous imaginer, donc, c'est de la paille de Camargue, et ensuite elle est mélangée avec une petite quantité de polyester, c'est comme ça qu'on va l'insérer dans la toiture ?
Voilà, en fait, nous, nous fabriquons, donc à Dagneux, à 20 km de Lyon, des panneaux isolants qui sont composés à 92% de paille de riz. Et avec ce liant qui est cette fibre polyester, ça permet d'avoir un panneau qui se tient physiquement et qui permet d'être mis en œuvre, par exemple, en toiture entre les chevrons pour être tenu mécaniquement. En fait, on va mettre en œuvre des panneaux d'isolation comme on mettrait en œuvre des panneaux de laine minérale, si ce n'est que notre matière première, elle est d'origine végétale et en plus issue du recyclage.
Et ça se traduit comment concrètement? Elle est utilisée sur des immeubles en particulier, sur des bâtiments?
Alors, on peut l'utiliser dans l'habitat individuel ou dans des bâtiments collectifs, peu importe. C'est vraiment une isolation thermique par l'intérieur qui va être mise en œuvre dans des ossatures bois, donc une charpente ou une ossature bois, ou dans les ossatures métalliques qui vont supporter, par exemple, les plaques de plâtre de finition.
Catherine Testa, notre coach, ça vous inspire?
Alors, l'isolation, de toute façon, c'est un vrai sujet dans le bâtiment. Finalement, ça évite de consommer d'autres matériaux qui sont non renouvelables. Alors, je me pose une question peut-être très naïve. Quand vous me dites paille, je pense feu, potentiellement. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a risque d'incendie? Est-ce que finalement, c'est un matériau qui est dangereux ou pas? Ouais. Comment vous avez pu gérer ça, cette question de la paille, en fait?
Alors, c'est effectivement une des questions qui vient régulièrement, mais déjà, le feu ne se génère pas tout seul dans une habitation. Il faut qu'il y ait une source, évidemment, de feu. On a la chance, avec cette paille de riz, d'avoir une présence de silice. Et cette silice fait que l'on est Euroclasse E. Alors, c'est un terme un peu technique, mais c'est le même niveau de résistance au feu qu'une laine de bois, par exemple, ou qu'une laine minérale revêtue d'un kraft. Donc, on est vraiment bien résistant à la contrainte incendie. En sachant qu'un isolant dans une surface habitable n'est pas censé rester apparent et donc évidemment est protégé par la plaque de plâtre de finition ou par une autre finition qui va servir de coupe-feu.
Dora, pour rafraîchir nos maisons, vous avez trouvé d'autres initiatives,
solutions,
d'autres solutions?
Tout à fait. Il y a, là, on parlait d'isolation, mais pour rafraîchir nos maisons, il y a aussi c'est aussi en forme d'isolation, c'est-à-dire qu'on appelle ça le puits canadien ou le puits provençal.
Vous connaissez Laurence Reber?
Tout à fait, oui, je connais bien.
Alors là, on parlait d'isolation, et là, il s'agit une nouvelle fois d'une ventilation naturelle. C'est un système qui consiste à faire passer de l'air par des tuyaux enterrés dans le sol, à un mètre ou deux de profondeur, même parfois même plus profond. Et en été, l'air de ces tuyaux, elle récupère la fraîcheur. Vous imaginez bien que le sol, c'est beaucoup plus frais en dessous. Elle l'introduit dans la maison et ainsi, on peut passer, par exemple, de température extérieure de 30 degrés en extérieur et l'air arrivé à l'intérieur, il arrive entre 15 et 20 degrés. Et il y a une entreprise qui s'appelle lepuitscanadien.fr qui propose des kits pour installer un véritable puits canadien en grès, parce que ça peut se faire aussi en grès dans la maison, et avec toutes sortes de conseils pratiques pour l'installer au mieux chez soi, dans son jardin.
Laurence Trébert, l'isolation, grâce à votre solution, ça fait baisser la température de combien de degrés en moyenne? On peut le calculer?
Oui, en fait, ça se calcule en heures, en fait. On a, par exemple, pour 300 mm d'isolant mis en œuvre, un retard de ce transfert d'énergie chaleur dans les toits qui est de 10h30, ce qui signifie qu'on va complètement éviter les pics de chaleur. En ayant un isolant épais avec une forte inertie, on va écréter les pics de chaleur et l'isolant va suffisamment ralentir ce transfert d'énergie pour que quand la température extérieure se rafraîchit, le flux de température repart vers l'extérieur pour que les gens puissent vivre sous ces combles.
Catherine,
alors, j'ai une autre question peut-être un peu curieuse. Quand vous produisez de la paille de riz, le riz, il est consommé à côté?
Bien sûr, oui, on récupère la paille de riz une fois que le riz a été récolté.
Rien n'est jeté, c'est incroyable.
C'est formidable.
Oui. Donc vous ne vous opposez pas finalement, de temps en temps on parle d'énergie renouvelable qui s'oppose à l'agriculture, mais là c'est conjointement, donc c'est bénéfique pour tout le monde en l'occurrence. Et en Camargue, en plus, quelle chance.
C'est même une solution écologique puisque jusqu'à présent la paille de riz était brûlée sur champ par défaut d'usage, tandis que là on en fait quelque chose.
Et là vous la récupérez à l'élément naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun additif en fait qui la rend plus isolante, vous rajoutez rien du tout?
Alors on la récupère, 92% de paille de riz, les 8% de liant et aucun additif chimique ou neurotoxique rajouté.
Je me disais ça peut être hyper intéressant pour les collectivités, pour pour certains quartiers, avec bien les sûr. Barres d'immeubles où les personnes, quand il y a la canicule, c'est insupportable, chacun cherche un peu d'air. Là, vous pouvez aussi intervenir là-dessus, non ?
Tout à fait. Tout ce qui est isolation des toitures, des parois par l'intérieur peut être isolé avec nos panneaux en paille de riz.
Vous avez noué des liens avec des collectivités de certains quartiers ?
Alors, de certains quartiers, pas forcément, mais par exemple, on est en discussion avec Euroméditerranée qui est en train de s'occuper de la rénovation des grands quartiers de Marseille.
Ah ben voilà, bien sûr.
Voilà, côté port ou les quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus marqué des collectivités pour une isolation plus écologique, biosourcée et qui apporte du confort en été.
Ça pourra également apporter du confort et donc permettre une meilleure qualité de vie tout en respectant la planète. Merci Laurence Treiber, ça s'appelle FBT Isolation. Vous transformez donc la paille de riz de Camargue en isolant écologique. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Faire baisser la température dans les villes, oui, c'est possible grâce aux murs végétalisés. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Sol artificiel, pas beaucoup d'arbres, des activités humaines. Il fait souvent plus chaud en ville qu'à la campagne. Mais le phénomène d'îlot de chaleur urbain est particulièrement marqué pendant les canicules qui là peuvent transformer carrément les villes en fours. Bonjour Frédéric Bureau.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Vertical Floor. Vous êtes un créateur de murs isolants et végétalisés. Racontez-nous, les plantes deviennent un acteur majeur dans la baisse des températures ?
Alors, les plantes deviennent un acteur, oui. Les plantes sont des intermédiaires, finalement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est face au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Voilà, quelles solutions on peut apporter et comment on peut réduire. Et en effet, les plantes contribuent à une réduction des températures en milieu urbain dense, notamment par leur respiration et la vapeur d'eau qu'elles rejettent, hein, donc qui permet, via des échanges caloriques, de réduire la température ambiante. Donc, ce n'est pas le mur végétal à proprement parler qui est un isolant, puisque le mur végétal ne se substitue pas à un isolant traditionnel. Mais par contre, on rajoute une couche au bâtiment et cette couche est finie en surface par en effet des végétaux qui, eux, vont avoir leur métabolisme et puis qui vont intégrer différemment le rayonnement en fait, du soleil et l'intégration des chaleurs.
C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, hein, c'est ça ?
Exactement.
J'ai appris ça en préparant l'émission.
Mais ce n'est pas le phénomène de la rosée, ça, Elisabeth ?
Ah ben, moi, je ne sais pas, mais peut-être que Frédéric Bureau pourra nous répondre.
Donc, l'évapotranspiration, c'est en fait la respiration des végétaux, le renvoi dans l'air, de l'eau qui passe d'une forme liquide à une forme gazeuse. Et donc, du coup, en fait, vous avez un transfert de chaleur qui s'effectue. À ce moment-là, en fait, c'est un effet thermodynamique, mais vous avez une remontée en effet dans l'air d'eau qui vient diminuer en effet la température ambiante.
Alors, vous êtes Frédéric Bureau, Vertical Floor est situé en Normandie, ce qui fait plaisir à notre coach, hein, à Catherine Testa. Et donc, grâce à votre positionnement géographique, vous avez pu nouer aussi des relations privilégiées avec des pépiniéristes, des fournisseurs locaux, pour pouvoir proposer ces murs végétaux.
Oui. Absolument. On est bien placé pour pouvoir avoir tout un tas de pépiniéristes, en effet. Donc, c'est vrai que notre positionnement en Normandie, c'est vrai qu'il nous amène à beaucoup travailler avec la région parisienne. Donc, on est finalement en porte de Paris. Et après, ce qui nous permet aussi de nous déplacer un peu du nord au sud. On a une implication nationale. Donc, c'est vrai qu'on est rapidement partout.
Tous les murs peuvent être végétalisés ou il y a des endroits particuliers pour pouvoir rafraîchir un lieu en particulier ?
Tous les murs, alors il est certainement plus facile de végétaliser un bâtiment qui est en restructuration, un bâtiment neuf qui est en construction, plutôt qu'un bâtiment existant. Restaurer est bien plus complexe. Le mur végétal représente quand même des contraintes sur la structure du bâtiment. Les meilleures façades végétales aujourd'hui qui fonctionnent le mieux sont des façades qui ont en fait un substrat minéral organique en façade, mais du coup, il est généralement un petit peu lourd. Installer toute cette ossature, il y a une ossature métallique, après il y a la position du substrat, il y a de l'eau qui circule. Donc tout ça représente un poids, des contraintes, il y a la gestion de l'eau aussi sur la façade, la circulation de l'eau. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile de le venir mettre en place, c'est pas impossible, mais c'est plus contraignant sur des bâtiments existants où là, il faut s'assurer que le mur va pouvoir porter le poids, notamment.
Catherine Testa, notre coach.
Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est que ces murs végétalisés, c'est des stars sur Instagram. Il y a plein de personnes qui les prennent en photo parce qu'on les voit à l'intérieur dans des start-up assez souvent ou dans des bureaux. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est tout simplement que les personnes qui habitent dans des villes manquent parfois de nature. Et que le fait de voir finalement ces murs végétalisés à l'extérieur, ça leur permet aussi peut-être une pointe de verdure et de recréer probablement, enfin ça vous allez nous le dire, un biotope local. Est-ce que ça peut aussi aider peut-être les abeilles à venir ou pas? Est-ce que vous avez un peu structuré ça en parallèle ou seulement la plante?
Alors, un peu moins en intérieur, puisque vous évoquez l'intérieur, donc il y a un peu moins d'abeilles en intérieur. Mais en extérieur, en effet, disons que les murs végétaux aident, ils contribuent au rétablissement d'un biotope, ils contribuent en effet à réintégrer cette nature et en effet, chacun y trouve un peu sa place. On a souvent des nids dans nos façades, donc les oiseaux y trouvent leur place, des rongeurs peuvent y trouver leur place, il peut y avoir tout un tas de choses.
Et on évoque souvent aussi les plantes qui sont dépolluantes. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus, sur le choix des plantes?
Peut-être qu'elles sont dans le mur,
alors,
les plantes.
Là, on est plus dans un aspect intérieur, en effet, dans la configuration intérieure. Oui. La problématique est différente. On est moins dans l'absorption de l'énergie solaire, dans le rafraîchissement et la protection du bâtiment. Je n'ai pas dit l'isolation, mais la protection. On est plutôt, en effet, en intérieur sur des objectifs de bien-être, éventuellement dépollution. Alors, le terme dépollution est un mot populaire qui est compréhensible par tous. On est plutôt normalement dans la fixation de ce qu'on appelle les COV, c'est-à-dire des composés organiques volatiles. Ce sont tout un tas de petits polluants invisibles à l'œil, mais qui sont en fait des résidus de nos produits ménagers, de nos rejets d'encre, de certaines fibres qui se retrouvent en suspension dans l'air et que nous attrapons, que nous respirons. Donc certaines plantes ont la capacité en effet à pouvoir absorber certains de ces COV. Et en effet, une forte présence, maintenant il faut en général quand même, c'est là où les murs végétaux trouvent aussi du sens, et il faut quand même un grand nombre de végétaux pour pouvoir fixer. Si on met une plante dans un bureau, on va pas filtrer une seule plante à elle-même, ne va pas filtrer des mètres cubes
d'air. Non, ce ne sera pas possible.
Donc il faut une multiplication en effet.
Dora, vous avez trouvé d'autres solutions pour rafraîchir nos villes, hein, notamment grâce à l'aménagement urbain?
Oui, parce que là, on vient de parler, verdir les villes, bien sûr, on le sait, hein, planter un maximum d'arbres, c'est très efficace. Les façades dont on parle, là, les toits aussi végétalisés, tout ce qui est potager urbain, sont très efficaces pour lutter contre la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Puis il y a aussi, tout simplement, humidifier les sols aussi, les routes, les trottoirs. Et tout ça, c'est beaucoup repensé en ce moment par les villes. Beaucoup de villes se sont lancées, par exemple, à Nice, et ils avaient programmer des bus d'aspersion, c'est-à-dire c'était des petites buses sur le trottoir qui permettaient d'asperger la chaussée. Et en s'évaporant, l'eau, en fait, de la même manière, elle refroidit l'extérieur. Ils utilisent aussi d'autres vêtements, par exemple du sable ou de la terre, qui sont des revêtements poreux qui ont le bénéfice d'absorber la chaleur ambiante plutôt que l'asphalte de nos chaussées. On le sait, qui emmagasine la chaleur et qui la restitue la nuit. C'est pour ça que souvent, en ville, on relève des différences nocturnes de température de 2 à 3 degrés, par exemple dans les grandes villes, par rapport à l'extérieur. C'est le rejet de l'asphalte, notamment.
Il faut une autorisation pour installer un mur végétalisé?
En extérieur, disons qu'assez souvent, on est soumis en effet au PLU des villes. Et donc, il faut en effet une autorisation préalable, voire un permis de construire.
On ne peut pas le faire comme ça. Là, en sortant de l'émission, on ne peut pas lui dire on va...
Vous êtes dans la modification d'une façade, quand on est en extérieur, dans la modification d'une façade.
Et donc,
la ville a le droit de regard, voilà, un droit de regard, voire même plus que la ville, puisqu'il se peut que même, si vous êtes concerné dans votre quartier, dans votre bâtiment, que les architectes bâtiments de France aient également leur mot à dire. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un frein forcément, puisque quand même un certain nombre de municipalités aujourd'hui ont une vraie volonté dans la distribution de ces produits, de ces solutions. Mais par contre, c'est jamais gagné d'avance. Il faut quand même construire de manière avec collaboration avec la municipalité ces solutions.
Moi, je me demandais tout bêtement, est-ce que si je mets un petit mur chez moi, ne serait-ce que d'un mètre sur un mètre, enfin un petit mètre carré, ça a des répercussions, ça a des effets sur la chaleur de mon appartement?
À l'intérieur de l'appartement?
À l'intérieur de l'appartement? Ou ça suffit
non,
pas?
Non, enfin...
Ce sera juste joli, je crois.
Tant pis. Je suis très déçue.
Dire que ça n'a pas d'effet, mais par contre, voilà, ça va être insignifiant sur un mètre carré.
D'accord, oui. Faut qu'on sait à partir de combien ça peut l'être? Enfin, ça peut avoir un intérêt? Il faut vraiment que ça soit sur une façade d'immeuble.
Je ne suis pas sûr que ça ait été quantifié. En tout cas, il faut plusieurs dizaines de mètres carrés quand même. Ouais, imaginez quand même un mur végétal, on met environ une trentaine de plantes au mètre carré.
Donc une façade qui va faire 10 mètres dans le dépièce cuisine, ce sera compliqué.
Non, vous venez de me casser un rêve.
Catherine,
là, bon,
et à arroser. Et oui, il faut l'arroser aussi, c'est vrai.
Et 100 mètres carrés à 30 plantes du mètre carré, en effet, il y a 3000 plantes.
Laissez tomber, j'ai compris. Vous avez cassé mon rêve, vous avez cassé mon rêve.
Ça s'appelle Vertical Floor. Merci à vous, Frédéric Bureau, d'être venu nous présenter vos murs végétalisés isolants. C'est la fin de cette émission. Merci Catherine Testa.
Merci.
Présidente du club des Chief Happiness Officers. On se retrouve demain, même heure, avec vous, Dora Nana.
Oui, Elisabeth.
À demain.